Radio Barque, un invité sur Grand Sud FM pour mieux connaître ceux qui font l'actualité régionale. Radio Barque, bonjour, c'est notre 14e de notre 11e saison. Notre invité est aujourd'hui Éric Camousse, bonjour.
Oui, bonjour.
Procureur de la République à tribunal judiciaire de Narbonne, pour être précis. Alors, monsieur Camousse, vous avez déjà été invité sur ce genre d'émission. On vous connaît et on connaît un certain nombre de vos actions. Peut-être d'abord un bref rappel pour les gens qui ne sont pas tout à fait au fait du fonctionnement de la justice. Ce qu'est un tribunal judiciaire, parce qu'on parle de tribunal du commerce, tribunal des prud'hommes. Quel est un petit peu, en quelques mots, qui fait quoi?
Le rôle d'un tribunal judiciaire, c'est de faire tout simplement appliquer la loi, s'assurer que lorsque des personnes sont en litige, eh bien, elles puissent accéder à un juge qui va à ce moment-là déterminer quelle est la personne qui a raison, quelle est la personne qui a tort au regard d'un texte applicable. Mais pas seulement. Un tribunal judiciaire, vous y avez aussi des juges en charge de la protection qui sont chargés tout simplement d'accompagner des personnes en difficulté. On pense notamment aux mesures de tutelle ou de curatelle. Ce sont aussi contentieux qui sont pas toujours connus, qui relèvent du droit des successions, qui relèvent du droit de la famille, mais qui réclament simplement qu'un acte juridictionnel soit posé. Et puis, il y a bien évidemment le cœur de métier qui renvoie à tout ce qui relève des affaires civiles, commerciales, de tout ce qui concerne les mineurs. En fait, c'est là où la loi se fait respecter.
Parce qu'on parle aussi, par exemple, de tribunal des prud'hommes pour le droit du travail, tribunal de commerce. Ils appliquent aussi la loi d'une certaine façon.
Oui, c'est ça, mais avec des compétences particulières et puis une singularité en ce qui concerne Narbonne, puisque le tribunal de commerce et le tribunal des prud'hommes sont actuellement dans l'ancien palais de justice,
le bâtiment, oui,
que l'on appelle maintenant, l'ancien nouveau palais de justice, puisque il y a 4 ans et demi, j'avais formé le projet en arrivant de réinvestir l'ancien palais de justice. Et les travaux sont actuellement en préparation, les études se réalisent pour que la juridiction de Narbonne ait dans à peu près 2 ans, non pas un bâtiment, mais 2 bâtiments, parce que le deuxième bâtiment, c'est-à-dire que l'ancien palais de justice, va être entièrement réinvesti, le ministère finançant la totalité des travaux qui vont être réalisés, dont la budgétisation se monte à peu près à 6,5 millions d'euros.
Ah ouais. Parce qu'il abrite quoi exactement aujourd'hui ce bâtiment, cet ancien tribunal?
Actuellement, il abrite le Conseil des prud'hommes et le tribunal de commerce. Demain, ce sera des services entiers du tribunal judiciaire. Ça peut être le service de la famille, ça peut être le service du juge en charge de la protection, ça peut être bien d'autres services, l'association des deux victimes, auxquelles vous savez que je tiens particulièrement, et puis également les services de médiation, ainsi que l'ensemble des acteurs qui participent ainsi à la vie judiciaire du ressort.
Oui, d'accord. Donc les deux bâtiments seront entièrement affectés à...
Exactement. Ce ne sera pas un bâtiment et son annexe, ce sera vraiment 2 bâtiments avec des projets de service pour chacun d'eux.
Oui, voilà. Retour un petit peu à un certain passé, hein, puisque pendant des décennies, c'était le tribunal de Narbonne.
En tout cas, ce sera une belle modernisation du passé pour le futur.
Et alors, dans tout ça, monsieur le procureur, quel est le rôle exact d'un procureur de la République ?
Procureur de la République, il a en charge l'action publique, c'est-à-dire tout simplement ayant sous son autorité les services de police et de gendarmerie lorsqu'ils accomplissent des actes de police judiciaire. Il dirige les enquêtes. Alors, heureusement, il n'est pas seul à le faire. Il a avec lui d'autres magistrats, qu'on appelle également procureur de la République, même si en interne, ils ont des grades de substitut, vice-procureur ou procureur adjoint. Mais nous avons donc la charge de diriger les enquêtes. Nous sommes aujourd'hui particulièrement bien accompagnés, puisque nous disposons d'attachés de justice, de chargés de mission, de juristes assistants, d'assistants de justice qui résultent tout simplement des choix qui ont été faits il y a 4 ans, de nous doter de moyens humains qui nous manquaient véritablement et qui font qu'aujourd'hui nous sommes beaucoup mieux en mesure de répondre à nos missions. Et dirigeant les enquêtes, eh bien, en fonction de l'opinion, de l'analyse que nous faisons des dossiers qui sont réalisés, de faire traduire les personnes devant la justice, qu'il s'agisse du tribunal correctionnel, du tribunal de police, et sinon de saisir le juge d'instruction lorsque des faits graves comme des faits criminels le justifient en vue d'une audience devant la cour d'assises.
Et alors, ce qu'on appelle un substitut ou une substitut, il fait les mêmes tâches que vous ?
C'est ça, les mêmes tâches juridictionnelles. Et la place particulière du procureur de la République, c'est à la fois de dessiner une politique pénale, de la mettre en œuvre, d'avoir des relations partenariales, et nous avons des relations partenariales extrêmement fortes sur ce ressort, qu'il s'agisse des services du préfet, qu'il s'agisse d'éducation nationale, qu'il s'agisse du monde du travail, de tout ce qui relève de l'action sociale, parce que nous travaillons en synergie dans l'intérêt de nos concitoyens.
Oui, c'est ça qui a apparu peut-être un petit peu nouveau, en tout cas depuis votre présence à Narbonne, monsieur le procureur. Alors, vous avez signé un certain nombre de conventions, avec, on ne va peut-être pas tous les énumérer parce qu'il y en a pas mal, mais à chaque fois, vous ressentez le besoin d'une convention pour, en quelque sorte, que ça fonctionne mieux. Et ça, le public ne comprend pas forcément.
Parce que nous sommes amenés à gérer la complexité. Faire travailler ensemble des services administratifs et judiciaires. Faire travailler ensemble, on en reparlera, mais notamment lorsqu'il s'est agi de lutter contre l'absentéisme scolaire ou l'évitement scolaire. À la fois l'éducation nationale, les maires, le procureur de la République, la caisse d'allocation familiale, il faut se coordonner. Et tout cela passe par une convention, un document écrit, bien évidemment, mais l'enjeu, c'est surtout la discussion et l'échange, où les personnes vont se connaître, vont adapter leur process, on va tout simplement parler le même langage. Et pour parler le même langage, il faut se rencontrer, il faut échanger, et comprendre ce que chacun fait pour développer une culture collective, et de cette façon, aboutir à l'efficacité de ce que l'on veut mettre en place.
C'est-à-dire, vous établissez une sorte de passerelle qui ne sont pas évidentes de prime abord.
Ah, rien n'est évident. On pourrait presque comparer ça à un travail de chef d'entreprise, dans la mesure où j'ai une mission à accomplir, j'ai un résultat à obtenir, et pour obtenir ce résultat, je dois faire travailler différents acteurs qui ont des cultures différentes, des langages différents, des manières de faire différentes, et qui sont différents. Et donc l'enjeu, c'est d'arriver à faire travailler tout le monde, mais pour faire travailler tout le monde en synergie, il faut impérativement que chacun se connaisse.
Oui, d'accord. Le public comprendra, j'espère, un peu mieux le pourquoi de toutes ces conventions. Alors, je le disais, vous en avez signé un certain nombre. On ne peut pas tout énumérer et vous-même, vous ne pourrez pas tout faire. Mais lorsque vous arrivez à Narbonne il y a 4 ans et demi, quels sont, après vos constats, vos priorités ? Qu'est-ce qui vous motive pour aller plutôt dans cette direction que dans telle autre ?
Alors, les priorités sont d'abord celles qui ont été dessinées par le garde des Sceaux, puisque nous appliquons une politique pénale qui a vocation à être nationale. Ensuite, ce sont les précisions qui ont été apportées par le procureur général, qui nous indique comment décliner nos politiques pénales. Et à partir de là, nous avons le devoir de les adapter à la réalité de chacun de nos ressorts. En ce qui concerne Narbonne, il y avait l'évidence de lutter contre les trafics de drogue, comme toutes les cités, également lutter contre les violences intrafamiliales. Une attention toute particulière au tribunal de commerce, et travailler avec le tribunal de commerce pour assainir la vie économique et surtout accompagner cette vie économique, parce que ce que peu de gens savent, c'est que le procureur de la République est aussi un acteur de premier ordre dans l'aide et l'accompagnement des entreprises en difficulté, notamment au tribunal de commerce. Et puis un certain nombre de singularités qui relèvent tant de la protection de l'environnement qu'en ce qui concerne la lutte contre l'absentéisme scolaire et l'évitement scolaire que d'autres particularités du ressort.
Alors on va essayer de se concentrer sur un certain nombre de ces priorités. Alors l'aide aux victimes et le fameux pôle médico-judiciaire qui implique une grande coopération avec l'hôpital.
Oui, alors ça c'est vraiment une grande réussite. Une grande réussite qui doit tout d'abord au dynamisme du directeur de l'hôpital de Narbonne et à son équipe. Je crois qu'il faut vraiment saluer l'accompagnement dont nous avons bénéficié de cet établissement, parce que ça montre à quel point le service public en France est capable de se moderniser, de s'adapter et d'enrichir ses pratiques, et également de travailler en coopération. Aujourd'hui, une personne qui est victime de violence, elle bénéficie d'abord de l'accompagnement par un médecin légiste au sein de l'unité de médecine légale, ensuite d'un accueil par une psychologue, après de la possibilité de voir une association d'aide aux victimes pour réaliser une évaluation victime gravement traumatisée, ensuite d'un psychologue qui lui est requis par le procureur de la République, ou en tout cas par ses services, et tout simplement pour nourrir le dossier, faire en sorte que le jour de l'audience, le juge sache exactement quelles sont les souffrances endurées par la victime, mais aussi et peut-être surtout de permettre à ces victimes d'être accompagnées, de ne pas se sentir seules et d'être aidées dans toutes leurs démarches. Là actuellement, nous sommes en train de réfléchir à mettre en place un parcours victime renforcé parce que vous avez des personnes qui, parce qu'elles ont été victimes d'agressions, de violences ou d'un accident grave, ben, perdent leur travail, sont en déshérence totale. Et donc, nous allons amorcer un travail avec la Caisse d'allocation familiale, France Travail, avec la CPAM, tout simplement pour certaines de ces victimes, leur proposer une offre de services plus étendue et plus riche.
Ça va au-delà de ce qui existe donc au tribunal, qui est déjà, donc, si je comprends bien, à la fois des locaux, des bâtiments, et une chaîne de compétences qui siègent aujourd'hui à l'hôpital.
Exactement. Et tous ces services sont financés en grande partie par le ministère de la Justice, dans le cadre par exemple de l'unité de médecine légale qui conduit à ce que le ministère verse, donc cette année ce sera 340 000 euros. Lors de la création, il y a 4 ans, c'était 640 000 euros. Cette année, pour la budgétisation 2025, on est sur des projections à 475 000 euros parce que l'UMJ a accueilli 2450 personnes sur l'année 2024.
Oui, on ne réalise pas finalement le nombre, tout simplement.
C'est vraiment très important et en même temps, ça montre toute la disponibilité des acteurs et le besoin qui existait. Mais un besoin qui existe pour des victimes, quelles qu'elles soient, même des victimes d'accidents de la route. Et parfois, ce sont des faits de faible gravité qui ont le plus grand retentissement chez des personnes. Et aujourd'hui, elles sont accompagnées par l'ensemble de ces dispositifs qui ont été mis en place.
Oui. Et alors, donc, toutes ces nouveautés que vous venez d'évoquer, monsieur le procureur, vous avez incité à leur création. Ça veut dire que ça n'existe peut-être pas partout de la même façon.
Non, en revanche, ce qui est certain, c'est que dans la mesure où nous avons maintenant des collaborateurs professionnalisés qui nous aident à ce travail, eh bien, il peut enfin se faire. Je vous donne un exemple simple. Lorsque la création a été envisagée, programmée de l'unité de médecine légale, j'avais avec moi Anne Hurley, qui maintenant est avocate au barreau de Narbonne, mais qui est docteur en droit public et qui donc avait tout le savoir, toute la science administrative pour pouvoir nous accompagner dans la création de cette unité de médecine légale. Aujourd'hui, Laurie Abad, qui la remplace, est une collaboratrice de premier ordre avec une vraie compétence, parce que c'est une juriste, et elle nous accompagne sur toutes les conventions que nous signons et que nous allons signer.
Oui, donc parfois ce sont presque des spécificités narbonnaises. Sans aller jusque-là.
Sans dire des spécificités, mais disons que sur Narbonne, nous avons la chance d'être accompagnés par des collaborateurs et des collaboratrices de très haute valeur.
On marque une première pause, monsieur le procureur. On se retrouve pour une seconde partie.